Christian Boucarin, bonjour.
Bonjour.
De ce que j'ai pu comprendre de la médecine intégrative, c'est que ça va au-delà du diagnostic, au-delà du cas purement scientifique. On s'intéresse tout d'abord à la personne derrière le patient.
Exactement, exactement. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de patients qui utilisent des thérapies non conventionnelles. La majorité, 80% selon certains sondages. Et les sondages montrent que 50% n'en parlent pas avec leur médecin traitant.
Mm-hmm.
Une des raisons pourquoi ça existe, c'est probablement parce qu'ils pensent que le milieu médical est peut-être fermé à ça, ou peut-être parce que les médecins n'en parlent pas assez parce qu'ils pensent ne pas avoir assez de connaissances là-dedans.
Et pourtant, ça a des impacts lorsqu'on suit un traitement pour soigner notre cancer.
Bien, c'est qu'il y a la majorité qui utilise ces traitements-là non conventionnels et certains peuvent être dangereux, certains peuvent être nuisibles. Et il y a aussi des charlatans qui existent. Donc, mais par contre, il y a aussi beaucoup de ces thérapies non conventionnelles qui peuvent être utiles. Ils ont été étudiés scientifiquement et c'est ce qu'on appelle les thérapies complémentaires.
Oui. Qu'est-ce qu'on entend par thérapie complémentaire, Dr Boucarin?
Avec la thérapie complémentaire, on entend plusieurs types de thérapies, certains types de type corps-esprit, comme la méditation, l'hypnose, le yoga, la visualisation, la musicothérapie. Il y a aussi d'autres types de thérapies plus physiques qu'on appelle comme le massage, la massothérapie. Il y en a de plus en plus maintenant qui ont été prouvés comme étant sécuritaires quand ils sont utilisés dans un cadre et par des gens expérimentés. Comme quoi, ils peuvent être extrêmement bénéfiques pour les patients pour améliorer leur qualité de vie, pour améliorer la dépression, l'anxiété, les douleurs, les effets secondaires des traitements comme les nausées. Donc, ils ont beaucoup, beaucoup d'avantages à être utilisés de manière sécuritaire et c'est pour ça qu'on a commencé à les offrir à l'hôpital.
Vous êtes vous-même musicien, Dr Boucarin. Est-ce que vous avez vu les effets de la musique, de l'art sur le bien-être de vos patients?
Ah, bien sûr, bien sûr. On a commencé plusieurs ateliers d'art en relation avec la musique. Il y a aussi beaucoup d'œuvres d'art qui sont dans les salles d'attente. Et les gens oublient qu'ils sont malades pendant cet instant. Lorsqu'ils écoutent la musique ou lorsqu'ils parlent de l'art ou ils discutent d'autres choses que de leur maladie. Et en même temps, la musique fait en sorte que plusieurs patients se rassemblent ensemble. Ils peuvent sortir de l'isolation qu'ils peuvent ressentir parfois.
Je le disais tout à l'heure, c'est tout jeune, cette approche-là, qui est la médecine intégrative. Comment ça s'est créé, ce mouvement?
Ça s'est créé dans les années 90. Par Dr. Eisenberg puis Dr. Whale. Puis lentement, ça a commencé à se développer. C'est sûr qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus développé qu'au Québec. Ça a commencé dans l'ouest des États-Unis, mais surtout en Arizona. Et là, lentement, ça a commencé à se répandre un peu partout parce que ce qu'on a montré, c'est que, un, ça servait aux patients, mais il y a aussi un grand service pour le système de santé. Parce que beaucoup de ces outils-là, lorsqu'ils sont utilisés de manière rigoureuse, ils peuvent faire économiser de l'argent au système de santé en plus. Parce qu'on utilise des thérapies qui coûtent moins cher, on agit sur la prévention et aussi on prévient les visites à l'urgence, on diminue le taux d'hospitalisation.
Oui, c'est une façon, j'imagine, de rendre le patient responsable aussi, de prendre sa maladie en main, d'apprendre à la connaître, de l'apprivoiser.
Oui, les patients, déjà maintenant, veulent être des partenaires dans leurs soins de santé. Ils veulent se sentir, en anglais, on appelle ça « empowerment ». Ils veulent renouer avec, ils veulent être actifs dans le processus de guérison. Et donc, ils vont sur Internet, il y a beaucoup d'informations qui sont parfois vraies, parfois fausses, mais ils ont accès à beaucoup d'informations. Et donc, il y en a beaucoup qui essaient d'autres produits. Et c'est important qu'on puisse en parler avec eux dans un cadre hospitalier, qu'ils puissent nous parler de tout ce qu'ils utilisent. Comme ça, nous, on peut le documenter. On peut aussi leur dire qu'est-ce qui a déjà été étudié de manière sécuritaire.
Ça change votre rapport aussi avec le patient parce que, soudainement, il y a cette notion de confiance qui devient assez forte. En quoi l'approche patient-soignant est modifiée?
C'est qu'à la base, il y a une alliance qui se crée entre le médecin et le patient. Et cette alliance-là, ce sentiment de sécurité, de confiance que le patient a à son médecin est primordial parce que ça joue sur plusieurs éléments. De un, le patient va se confier plus, va parler plus, va communiquer plus. Et de deux, ça augmente aussi l'adhérence au traitement. Les patients ont tendance à plus finir ou compléter leur traitement selon certaines études aussi. Donc, c'est important qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils se sentent aussi respectés dans leurs croyances, les patients. Surtout quand c'est maintenant documenté que plusieurs de ces thérapies-là complémentaires sont sécuritaires.
Oui. Et ce qui est important à saisir, je crois, je tiens à le rappeler, c'est qu'on ne réfute pas la médecine dite plus conventionnelle. Il y a quand même des traitements plus réguliers que l'on connaît déjà en milieu hospitalier, mais c'est joint
Absolument.
Avec d'autres méthodes.
Oui. Ça remplace rien, ces méthodes-là. En fait, on donne toujours, tu sais, pour guérir un cancer, là, ça prend la radiothérapie, la chirurgie, la chimiothérapie. Ces thérapies-là complémentaires ne guérissent pas la maladie. Ils soignent la personne. Oui. Et ils améliorent les paramètres psychologiques ou sociaux de l'individu, et même biologiques parfois, mais ils vont pas guérir un cancer. On parle pas de les utiliser en alternative avec les traitements conventionnels. On parle de les jumeler ceux qui sont sécuritaires avec les traitements conventionnels.
Mm-hmm. Est-ce que la médecine intégrative s'adresse à tout le monde? Est-ce que n'importe quel patient pourrait suivre une médecine plus intégrative?
Les patients, ben oui, c'est sûr que n'importe quel patient, s'il le désire, mais c'est sûr que pour l'instant, c'est pas encore très développé.
Non, c'est ça.
Mais là, on a commencé l'enseignement à une université, dans plusieurs universités, dont l'Université de Montréal. Moi, j'ai commencé à m'enseigner aussi depuis 2 ans en résident en oncologie. Ça commence à se développer. Mais c'est sûr que, bon, déjà à la base, qu'il y ait une communication limpide et claire entre un médecin et un patient sur les thérapies non complémentaires, non conventionnelles, excusez-moi,
oui. Mm-hmm.
Et que qu'un médecin aborde l'être comme une entité entière, au fait comme une entité psychologique, biologique, sociale, qu'on regarde toutes les facettes de la santé, c'est déjà un pas vers une approche intégrative.
Ouais. Est-ce que ça s'adresse également à une équipe multidisciplinaire? Il y a vous, médecin radio-oncologue, mais est-ce que ça sollicite les autres membres de l'équipe médicale?
C'est sûr que tout doit se faire d'une manière multidisciplinaire. Et vraiment, plus on avance dans notre méthode de donner des soins, plus la notion de multidisciplinarité commence à être importante. Puis le hic, c'est que maintenant, il y a déjà une équipe multidisciplinaire à l'hôpital formée de plusieurs thérapeutes, dont des psychologues. Mais en même temps, il y a beaucoup de ces thérapies non conventionnelles qui sont données à l'extérieur de l'hôpital et qui ne sont pas données dans un cadre où les gens discutent entre eux. Donc, c'est pas donné dans une équipe. Donc, c'est ça le but d'amener ces thérapies-là aussi à l'hôpital. C'est que de cette manière-là, la communication va se faire encore mieux avec les autres, le reste du personnel de la santé.
Oui. Docteur Boukaram, vous êtes également l'auteur de ce livre « Le pouvoir anti-cancer des émotions ». C'est quoi l'impact de l'émotion, de nos émotions sur la gestion de notre santé?
La santé est un équilibre entre les sphères biologiques, psychologiques et sociales. Ça, c'est selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est ça la définition de la santé. Donc, c'est clair que quand on veut prendre soin de notre santé ou d'un individu, il faut pas juste regarder les sphères biologiques ou juste la tumeur cancéreuse, mais aussi voir la personne, le côté psychologique et social, et les soigner en totalité, dans une entièreté. Et une des raisons, c'est sûr que le stress peut être parfois bénéfique et peut être parfois néfaste, selon s'il est d'une courte durée ou d'une longue durée. Mais les stress chroniques d'une longue durée, la détresse, ça, après quelques années de détresse, c'est très nuisible pour le système en général. Et donc, ça peut amener à plusieurs maladies chroniques et ça peut amener aussi à une détérioration des sphères physiques. Il y a un lien entre, mais c'est pas un lien immense, là. C'est pas un lien important entre le corps et l'esprit, mais il y a quand même un lien entre le corps et l'esprit. Donc, il faut quand même regarder les autres sphères de l'individu, pas juste la sphère biologique.
Qu'est-ce que vous répondez à vos patients qui se disent coupables de leur maladie? Parce que ça revient souvent lorsqu'on souffre d'un cancer de se dire « Ah, c'est de ma faute, j'ai vécu trop de stress », bon, par exemple. Comment on peut changer ce discours intérieur-là?
Bien, je pense que c'est peut-être la croyance qu'ils ont que le stress a causé leur cancer, mais c'est faux. Le stress ne cause pas le cancer. Puis le stress, il y a des gens qui peuvent vivre stressés toute une vie et puis pas nécessairement être malades, alors que d'autres peuvent être stressés toute une vie et avoir des maladies cardiaques, l'autre qui peuvent avoir de l'asthme, de l'obésité, du diabète. Le stress chronique est maintenant relié à toutes les maladies chroniques. Et donc, c'est pas une question de regarder ça d'une manière très simpliste et réduite de dire, ben ça, c'est le stress qui a causé mon cancer. C'est pas du tout ça. Le cancer, c'est une maladie multifactorielle. Ça prend une panoplie d'éléments, puis il y a aussi de la génétique qui joue là-dedans. Il y a toute une question du style de vie, de l'environnement, de l'alimentation. Faut pas réduire ça uniquement à ça.
Oui.
Donc, mais en même temps, même si le stress ne cause pas le cancer, ça ne veut pas dire que s'il y a de la détresse chez les gens qui sont soignés pour un cancer, qu'il ne faut pas regarder ça. Il faut quand même soigner les gens en détresse. Parce que la détresse chronique, par contre, les gens qui sont en détresse pendant plusieurs années, ça, c'est néfaste. Ça peut faire aggraver beaucoup de paramètres. Ça peut détériorer la santé.
Vous êtes également derrière le fonds Croire. Quels sont les objectifs menés ou souhaités par ces fonds?
Le fonds Croire est un organisme qui a été créé par moi et mes collègues en radio-oncologie. Et le but, c'est d'amener un soutien d'améliorer la qualité de vie des patients atteints de cancer en leur amenant des traitements complémentaires ou en des ateliers comme on en offre des ateliers comme la méditation. Il y a des ateliers de rire. Et le but, c'est vraiment d'améliorer leur qualité de vie.
Ouais.
Et on fait ça depuis quelques années maintenant. Et les activités sont en croissance, mais c'est sûr que, bon, on fait ça bénévolement. Et donc, on compte beaucoup sur l'aide des gens, et soit de dons ou d'aide avec le temps, si jamais il y a des gens qui sont intéressés à vouloir être bénévoles.
On peut aller visiter. Est-ce que le Fonds Croire a un site, Dr Boukaram?
Au fait, ça fait partie de la Fondation Maisonneuve Rosemont.
Ah, voilà. Alors, on dirigera nos auditeurs vers les Fonds Croire, également vers votre site Dr Boukaram pour drboukaram.com. En terminant, est-ce qu'on pourrait espérer au Québec que d'autres hôpitaux que Maisonneuve Rosemont adoptent la médecine intégrative et l'intègrent à ses soins hospitaliers?
Moi, je pense que c'est inévitable. Si on regarde comment aux États-Unis, ça a vraiment pris beaucoup d'ampleur et ça prend de l'expansion et que les études montrent que c'est bénéfique, autant pour le système que pour les patients, je trouve que c'est inévitable que ça va grandir de plus en plus. C'est vraiment appelé à croître.
Oui, parce que vous entendre, il n'y a pas beaucoup de désavantages à cette approche.
En autant que ça soit fait dans un cadre de manière rigoureuse et qu'on puisse justement faire ça avec des études scientifiques, à ce moment-là, ben c'est sûr que si c'est pas fait comme ça, ça peut comporter d'autres dangers, parce qu'il faut vraiment faire ça de manière rigoureuse là.
Ouais. Docteur Christian Boukaram, vous êtes radio-oncologue et chercheur à l'hôpital Maisonneuve Rosemont. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Ouais.